Bonjour, frères et sœurs.
Donc, nous continuons aujourd'hui notre étude dans le livre des Job. Et la semaine passée, nous avons étudié le chapitre 1 qui aborde directement, on a vu la question de la souffrance et surtout la souffrance du juste. Et le livre des Job est probablement un des plus anciens de la Bible. On ne sait pas exactement quand est-ce que ça a écrit, mais on pense peut-être au temps d'Abraham, des patriarches. On l'a vu ici la semaine passée que Job, à la fin, je vous révèle juste un petit de la fin, là. À 140 ans, je crois, il avait 140 ans quand il a reçu tous les... donc, il y avait plus de... presque... il a vécu peut-être 200 ans, là. Il a vécu assez vieux, là. Donc, c'est pour ça qu'on pense que c'est dans les temps d'Abraham. De toute façon, c'est pas dans les temps de la loi, il fait aucune référence, même ses amis... Et au niveau de la loi, donc on pense que c'est à peu près au temps d'Abraham qu'il a écrit. Donc même si ce livre est très ancien, il répond à une question que les hommes, les femmes, que toutes les générations se posent. Pourquoi les malheurs? Pourquoi la souffrance arrive? Et nous avons vu que Job était un homme, comment Dieu le décrit? Un homme intègre, quoi d'autre? Droit, craignant Dieu, et se détourne du mal. Il se détourne, il fuit du mal. Pourtant, des très grandes épreuves sont tombées sur lui. Et on a vu la semaine passée que les malheurs qui arrivent, et on l'a vu sur trois aspects la semaine passée. Premièrement, les malheurs sont immérités. On le voit, Job ne souffrait pas à cause d'un péché particulier dans sa vie, ou d'une même rébellion contre Dieu. Non, il ne souffre pas à cause de ça. Deuxièmement, ses malheurs servent à glorifier Dieu. On l'a vu aussi, Satan a accusé Job devant Dieu en disant que sa foi était intéressée. Mais il servait Dieu par intérêt seulement. Mais Dieu connaissait son serviteur. Il a permis l'épreuve afin que sa fidélité, la fidélité de Job soit manifestée. Et troisièmement, ses malheurs étaient voulus par Dieu. On a vu ça. Même si Satan agissait, Dieu demeurait souverain et gardait le contrôle sur cette situation. Donc, comme on l'a dit tantôt aussi, Job a lui-même déclaré, et ces phrases qui sont très connues par nous, c'est « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, a enlevé, que le nom de l'Éternel, que le nom de Dieu soit béni. » Et maintenant, dans le chapitre 2, l'épreuve de Job va devenir encore plus profonde, comme je l'ai dit tantôt, après avoir perdu tout, Job devra maintenant souffrir dans son propre corps. Et sa foi sera encore une fois mise à l'épreuve. Il va souffrir dans son propre corps. Donc je vous invite maintenant, vous avez votre Bible, donc allons lire le chapitre 2 de Job. On va le lire en entier, c'est juste 13 versets. C'est bon? Job, chapitre 2. Or, les fils des dieux vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre, de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et s'écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'incites à le perdre sans cause. Satan répondit à l'Éternel, peau par peau, tout ce qui possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os, à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, le voici. Il est à ton pouvoir, seulement épargne sa vie. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour gratter et s'assit dans la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? nous recevrions de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Trois amis de Job apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés et partirent chacun de son pays. Eliphaz de Théman, Bildad de Shua, Tsophar de Naama, et ils se concertèrent pour aller le plaindre, le consoler. Ayant de loin levé les yeux sur lui, ils ne le reconnurent pas et se mirent à sangloter. Ils déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la cendre, la poussière en l'air, au-dessus de leur tête. Ils s'assirent avec lui par terre. Pendant 7 jours et 7 nuits, personne ne lui disait une parole, car il voyait que sa douleur était fort grande. Toute une épreuve maintenant au pauvre Job, qui souffre maintenant par cette maladie. Mais il est important de voir que les chapitres 1 et 2 de Job, de ce livre-là, ne sont juste pas juste une histoire qui nous raconte en ce qui concerne comment Job a été éprouvé. Ils servent en fait des prologues du livre, OK? Ils posent les fondations de tout ce qui va suivre. Et vous allez, si vous avez déjà lu le livre de Job, là, il y a beaucoup de... Des dialogues. D'une part, de ses amis au début, après c'est Job qui prend la parole, après c'est un autre. Je suis en train de vous dire presque la fin. Hein. C'est correct, je sais que vous l'avez déjà lu. Puis après, c'est Dieu qui parle à la fin. Donc, on dirait l'épilogue au chapitre 42 de Job. Et donc, ces deux chapitres posent vraiment les fondements pour tout le reste des livres. Et en faisant suite à ce que nous avons étudié la semaine dernière, j'aimerais que nous puissions aujourd'hui regarder ces épreuves sur un quatrième aspect fondamental. C'est sûr que, mes frères et sœurs, les thèmes vont se répéter un peu. Hein, parce que Job, ça parle beaucoup de la souffrance. Okay? Mais même si les thèmes se répètent encore, c'est bon de se rappeler les principes bibliques. Hein. D'ailleurs, on se rappelle à tous les dimanches, on rappelle toujours la venue du Seigneur, on rappelle toujours l'Évangile. C'est bon de se rappeler. Il y a quelque chose qui change maintenant dans ces passages-là, mais ça se répète. On répète un peu les notions en ce qui concerne le livre déjà. Mais vous allez voir que c'est riche aussi comme enseignement, les autres dialogues déjà avec ses amis. Donc, j'aimerais qu'on puisse aujourd'hui étudier regarder ces épreuves sur un quatrième aspect. Nous avons vu que les malheurs de Job étaient immérités, ils servaient pour glorifier Dieu et qu'ils étaient voulus même par Dieu. Mais ce deuxième chapitre nous pousse à aller encore plus loin. Les malheurs de Job arrivent selon le plan souverain, les desseins souverains de Dieu. Même si Satan agisse avec violence terrible, on l'a vu là. Rien n'est absolument, rien n'échappe au contrôle de Dieu. On le voit. Dieu demeure souverain même dans les souffrances. Il dirige toute la situation dans ses desseins, dans son plan parfait. C'est ce qu'on appelle la providence de Dieu. Donc, les malheurs de Job ne sont pas le fruit du hasard ou d'une défaite de Dieu face au diable. Ils sont providentiel, ces malheurs. Okay, ce sont selon les plans de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, dans ces cas, utilise même le mal et la souffrance pour accomplir son plan ultime. C'est la main invisible de Dieu qui dirige, soutient et pourvoit à chaque aspect, à chaque détail de la vie de Job, comme il est fait pour nous aussi. Donc, c'est cette vérité profonde de la providence divine que nous allons approfondir ce matin à travers le chapitre 2. Donc, on va le voir sur trois aspects encore, comme un bon baptiste, trois aspects. Pas long, là, je sais que j'ai 25 minutes. Okay? Donc, on va aller rapidement. Donc, un, la souveraineté absolue de Dieu dans l'épreuve, le verset 1 à 7. Rien, pas même l'action de Satan, n'échappe au contrôle de Dieu. L'autre, la réaction face à la souffrance. Comment Job réagit à la souffrance? Nous verrons le conseil de sa femme qui le pousse à abandonner même sa foi et même maudire Dieu face au choix de Job qui reste fidèle malgré tout. Et un troisième point, la réalité extrême. On l'a vu dans le dernier passage de ce chapitre-là, la réalité extrême de la douleur. Nous verrons Job seul, abandonné, sur la cendre, il dit, montrant que même dans l'obscurité de sa vie, reste entre les mains de Dieu. Donc, allons vers le verset 1 à 7. Je ne vais pas lire encore le verset 1 à 7, mais nous avons déjà vu le chapitre 1, verset 6 à 12, le témoignage de Dieu envers son serviteur Job. Il dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Comme nous l'avons déjà vu également, Satan demande à Dieu de le toucher et de toucher tout ce qui lui appartient et pour prouver que Dieu se trompe. Et ce Satan-là, il est vraiment courageux. Il est vraiment insolent, je peux dire, là, parce qu'il ose dire que Dieu se trompe. Dieu est en train de le dire, il est intègre. Puis il dit, non, éprouve-le, il va voir comment tu te trompes, Dieu. Il va te régner, il va te maudire. Et donc, dans les versets 1 à 7 du chapitre 2 qu'on vient de lire, ils sont presque identiques, hein, les versets 6 à 12 du premier chapitre, sont presque identiques avec quelques différences importantes qui vont servir pour ce message. Donc, on ne sait pas combien de temps est passé de la première épreuve de Job, okay, jusqu'à maintenant, depuis les premiers malheurs, mais ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'il a passé la première épreuve. Donc, Dieu rend alors le même témoignage de Job, envers Job, pardon, mais il ajoute dans le verset 3, il ajoute quelque chose, il dit, mais il demeure ferme, il dit. Okay? Il demeure ferme dans son intégrité, il dit, envers moi. Et tu m'incites à le perdre sans cause, il dit ça à Satan. Donc cette fidélité de Job s'explique par sa réponse. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Ainsi, donc, Dieu constate l'insuccès, si on peut dire, de cette tentative de Satan. Et il lui dit qu'il s'accomplit, et s'accomplit par Satan, il dit Dieu, mais sans motif. Donc, le soupçon de ce Satan se trouve erroné. Donc, Satan se trompe complètement. Je ne fais pas un jeu de mots là, ici, là. Il se trompe carrément. Et parce qu'il dit que Dieu est menteur. Pourtant, Satan réplique parce qu'il est probablement un proverbe ancien. Il dit peau pour peau. On ne sait pas ce que ça veut dire, ce proverbe-là. Pas pour peau. Ça pourrait être peut-être un proverbe commercial dans le temps. Mais ce qui était important, là, c'est ce qu'il dit la suite. Il dit tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger contre sa vie, en quelque sorte. C'est comme s'il disait à Dieu, « Jusqu'ici, Job a tenu bon, parce que tu n'as pas touché, t'as touché juste ses biens et ses enfants même. Mais au fond, l'homme est prêt à tout sacrifier tant que sa propre peau est sauve. Tant que tu ne touches pas à lui, là, il va pas te maudire. » Maintenant, donc, Satan est persuadé que si Job est attaqué dans son corps, dans sa santé, alors il finira pour se détourner de Dieu et même aller à maudire Dieu. C'est pourquoi il demande encore, et c'est quand même particulier, et Satan demande encore la permission à Dieu pour pouvoir toucher la personne de Job. Donc, nous lisons dans le verset 6. Qu'est-ce qu'on lit dans le verset 6? L'Éternel dit à Satan, « Le voici, il est à ton pouvoir, il dit. Seulement, épargne sa vie. Il ne faut pas toucher à sa vie. Il ne faut pas qu'il meure, si je peux dire. » Et savez-vous quelle est la phrase la plus importante de ce verset? C'est « L'Éternel dit. » Ou pour le dire d'une autre manière, Dieu a décrété. C'est Dieu qui a décrété. C'est un peu à la mode des fois dans les églises modernes. Il dit, je déclare aujourd'hui que Dieu va te donner une nouvelle voiture, un nouveau char. Et ça ne s'accomplit pas, là. Et, il n'est pas Dieu. il n'est pas Dieu. Mais dans ce passage, Dieu donne son autorisation. Dieu ordonne, il ordonne que quelque chose de douloureux arrive à Job. Il utilise le mot « ordonne » avec précision. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il ordonne le mal, il permet le mal. Dans ce cas précis, il ordonne à Satan de toucher à la chair, à son corps, à ses os même, il va plus loin. La Bible nous enseigne deux grandes vérités en ce qui concerne Dieu, mais deux grandes vérités, beaucoup d'autres vérités, mais pour notre message, je vais retenir deux. Il est le créateur de l'univers, mais il est aussi celui qui soutient sa création. Vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'il donne, il la soutient. Cela implique qu'il la gouverne, qu'il dirige et qu'il ordonne absolument tous les événements. Dieu ordonne à la neige de descendre. Job va le dire plus tard. Là. Dieu ordonne à la neige de descendre. Dieu ordonne un passereau qui tombe au sol. Qui dit ça? Jésus dit. Dieu ordonne même ça. Dieu ordonne qu'ils seront les rois des nations. Qui dit ça? Daniel, dans son livre. Dieu ordonne qu'il fasse sombre et que vienne la nuit. Plusieurs fois, je crois, dans les psaumes, dans ces cas, c'est le psaume 104. Dieu ordonne la pluie et les saisons fertiles. C'est Paul qui mentionne ça dans les Actes des apôtres. Donc, enfin, Dieu est celui qui ordonne le bien comme le mal. Donc, qui frappe Job donc, dans ce passage? Dieu, Satan ou l'ulcère? C'est les trois. C'est les trois. Dieu est la cause première, par exemple. Rien n'échappe à sa volonté souveraine, à son contrôle ni à la décision. C'est le décret éternel de Dieu dans la vie de Job. Satan est l'agent ou l'instrument seulement. Même ses agissements, bien que libres et responsables, accomplissent de façon paradoxale même la volonté de Dieu, les desseins souverains. L'ulcère, c'est juste un moyen qu'il utilise. Donc Dieu est parfaitement souverain dans nos malheurs, dans nos souffrances. Rien n'arrive sans qu'il ne décide ou ne le permette. Le texte dit, j'espère que vous m'entendez, hein? Excusez, j'ai un peu le mal à la gorge. Et le texte dit, alors Satan se retira de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'une ulcère malin, comme on a vu. Et depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, et Job prit un tesson pour s'égratter et s'assit sur la cendre. Job s'est assis sur des cendres, probablement là où brûlaient les déchets de la ville. Probablement, c'est ça. Certaines versions parlent d'un fumier. C'est la version de la Septante, là, la traduction de l'Ancien Testament en grec, qui parle que Job s'assit sur un fumier. Il vient s'installer la journée, car il semble, selon le chapitre 7, que la nuit il va se coucher dans son lit. Mais il passe toute la journée probablement dans cet endroit, écarté de tout le monde, à l'écart de tout le monde. Si Dieu est souverain, une question donc cruciale se pose alors. Comment réagir à la souffrance? Si Dieu est souverain, puis il permet la souffrance dans nos vies, comment réagir à cette souffrance même, je dirais, providentielle? Et ce que nous allons voir dans les prochains versets 9 à 10. Donc, l'ulcère de Job désigne une maladie. On ne sait pas, plusieurs ont dit que c'est la lèpre. Le mot qu'on utilise ici, ce n'est pas le mot qu'on utilise normalement pour la lèpre dans l'Ancien Testament, mais c'est un ulcère maligne, une maladie de la peau. Et il dit de où à où? De la tête aux pieds. Il cause des démangeaisons, on dit, là, parce qu'ils sont si fortes. Il doit s'égratter avec un tesson, là, un morceau de poterie. On pense que ces morceaux de poterie se trouvent dans ces déchets-là. Donc, il doit s'égratter. Plus tard, dans le livre, on voit toutes les caractéristiques de cette maladie dans les prochains chapitres. Vous savez, qu'est-ce qu'il dit Job, même, de cette maladie? Sa peau noircit, il dit. OK? Se crevasse, il y a des trous. Et se couvre des croûtes et des vers, tandis que son corps s'épuise par la fièvre. Même Job dit ça. Et il est maigre, il a maigri. Et ses nuits sont en mélange, il le dit aussi plus tard, d'insomnie et des cauchemars. Vous voyez qu'est-ce qu'il est en train de vivre Job à ce moment. Et dans cette situation, une personne pousse Job à faire des reproches à Dieu. Et l'accusateur, Dieu accusé, mettons Dieu, et même dire de le maudire. Qui est cette personne qui pousse? C'est sa femme. Et que Satan a étonnamment épargné. Maintenant, il y a beaucoup de blagues même qui se disent pourquoi il a épargné sa femme. Donc, je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas vraiment, mais Dieu a été bon. Il a épargné. Là, il y en a qui rient. Là, il a été bon. Oui, il a été bon. Il a épargné sa femme. OK. Mais il a rajouté. Merci. Non, il n'a pas rajouté de couche. Quand même. C'est la fête des mères, mon frère. Donc, mais des fois, on est rapide hein, à vouloir pousser, à vouloir même critiquer l'attitude de cette femme. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, cette femme vient de perdre 10 enfants. Des fois, on se concentre juste à Job. Hein. Cette femme vient de perdre toutes ces choses-là, tout ce qu'ils avaient là. Cette femme vient, elle se trouve, je pense, à la rue. Vous savez, je parle de la Septante, là, le livre, la traduction en grec, il rajoute des choses. Il dit que cette femme se promène de maison en maison sans rien avoir. Donc, c'est ce qu'ils ont rajouté, eux, là. Mais dans ce que nous avons, c'est juste les paroles qu'ils mentionnent à Job. Mais je crois que oui, ces femmes, elles souffraient beaucoup. Et des fois, rapidement, on peut juger cette femme-là, hein. Mais je pense que cette femme est courageuse. Sauf qu'elle se trouve dans une situation difficile. OK, c'est pour ça qu'il prononce. Mais en quelque sorte, il sert dans le plan de Satan pour vouloir inciter Job à maudire même Dieu. Mais écoutez, le livre de Job nous donne beaucoup de détails. Hein? OK, beaucoup. Il aurait pu nous dire que la femme est morte aussi après, là. Il nous dit pas ça. En fait, dans le chapitre 42, on voit que Job va avoir combien? Encore! Combien de fils? 10 et 3, je crois. 7 et 3, oui, 7 et 3. Encore. Avec qui? Moi, je crois que c'était avec sa femme. En tout cas, peut-être vous ne le croyez pas, mais je crois que Dieu a probablement peut-être pardonné sa femme aussi. Comme il a fait pour ses amis, hein? Hein, les amis, ils ne sont pas morts, là, les amis, déjà. Pourtant, ils ont dit... Bon, en tout cas, je ne vais pas m'avancer sur les messages qui vont à venir, mais elle pousse. Tu demeures ferme dans ton intégrité. C'est ça qu'il dit la femme. Tu demeures ferme. Et c'est étonnant, hein, parce que c'est la même chose que Dieu dit au début, là. OK, en ce qui concerne Job, il demeure ferme dans ton intégrité. Mais il dit, bon, maudit Dieu et meurs, il dit. Principalement, il pousse à Job à maudire Dieu. Peut-être pour deux raisons. Soit par révolte face à une telle cruauté, c'est-à-dire, révolte-toi contre Dieu, puis écoute, il te fait souffrir. Et soit par compassion, on dit, peut-être s'il maudit Dieu, Dieu va l'achever. Donc il va souffrir moins, on ne sait pas. Mais il incite Dieu à maudire, il incite Job à maudire Dieu. Et dans les deux cas, il souhaite mettre un terme définitif aux souffrances de son mari. Ça doit être difficile de voir vraiment cette femme, voir son mari sur les cendres. Je vais prendre l'eau. Hein? Ma femme vient de me donner de l'eau.
Je
ne suis
pas
bon.
Comme la femme.
Non. Du tout. Merci. Donc, face au malheur... des fois, notre réflexe, c'est souvent de pointer le doigt contre Dieu. Parce qu'il est un Dieu souverain, on l'a vu tantôt, il permet toute chose. Donc, c'est toi le coupable, OK? Et c'est toi qui m'as fait mal. C'est toi qui veux me faire du mal. Des fois, on se plaint envers Dieu, il dit, c'est toi qui veux me faire du mal. Il ne faut pas faire ça. Job refuse d'attribuer une quelconque faute à Dieu. Il démontre sa soumission dans la souffrance avec une phrase encore qui est devenue célèbre. Qu'est-ce qu'il dit? Quoi? Nous recevrons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? Écoutez ce qu'il est en train de dire. Nous ne recevrons pas de Dieu le bien et on ne peut pas non plus recevoir le mal. Et cette phrase-là, ce n'est pas juste quelqu'un qui est dans la résignation parce qu'il n'a pas de choix de dire. Mais c'est une confiance, une foi inébranlable en la souveraineté de Dieu. Car il reconnaît que tout ce qui arrive passe par la main de Dieu. Donc, il faut comprendre, frères et sœurs, on l'a dit déjà, on le dit souvent, et que le Dieu saint ne nous pousse jamais à faire le mal, ni souhaite non plus notre mal, comme des fois nous, on souhaite le mal à quelqu'un. Il est parfait quand il décrète le mal. Comme dit Jacques, il dit, il ne tente personne. Par contre, pour des raisons sages, que ça nous dépasse, en fait, il peut ordonner le malheur. Ici, il l'a fait indirectement, par l'adversaire, mais pourtant Job prouve sa foi et reconnaît que derrière cette épreuve, Dieu est là. Il prend le contrôle, il dirige tous les événements. Ce que Job mentionne ici reflète en réalité tous les témoignages des Écritures. Job, ce n'est pas le seul qui s'est rendu compte de ça. Malgré que, vous savez là, frère, nous avons la Bible, hein? Nous avons ça. Et quand on est découragé, là, on peut lire les psaumes, on peut lire Job, on peut lire Pierre. Tous. La Bible nous console. Mais dans ces temps-là, Job, qu'est-ce qu'il avait comme parole de Dieu? Il n'y avait rien. Il y avait juste sa relation avec lui. Pourtant, il dit des choses là, que maintenant nous pouvons les appliquer. Merci pour Job. Okay? Il a vécu, il a laissé. Et des fois, il dit, plus tard, je dévoile beaucoup de secrets, hein, beaucoup de choses. Hein. Plus tard, il dit, j'aimerais que ces choses-là soient écrites. Il souhaite là, que ces choses soient écrites. Pourtant, il a été écrit, là. Ça a été écrit. Et des milliers d'années plus tard. Là. Mais ce que Job dit s'accorde parfaitement à ce qu'il dit l'Écriture. On va juste survoler quelques-uns. Là. Quatre personnes, Anne, Joseph, Salomon et Jérémie. Écoutez ce qu'il confesse là. Anne, dans 1 Samuel 2, 6 à 7. Après avoir enfanté Samuel, si vous vous rappelez, Anne voulait avoir un enfant. Puis elle pleurait même que sacrificateur dit, « Hey, t'as vu du vin, là? Écoute, là, va te... » En tout cas, vous connaissez l'histoire. Donc, il dit, « L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il fait remonter. » Donc, Anne confesse ici avec force que c'est derrière chaque événement de la vie, ou de sa vie, que ce soit pour donner ou ôter, même la chose que Job, hein, ou élevé ou rabaissé, c'est Dieu qui est souverain et il est à l'œuvre. Joseph, rappelez-vous l'histoire de Joseph? Pas Joseph le papa, le père à Jésus. Joseph, l'Ancien Testament. Lorsqu'il retrouve ses frères après des années de séparation, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces frères-là? Ils l'ont vendu, ils l'ont maltraité, rejeté, méprisé. Pourtant, lorsqu'il parle, il ne manifeste aucune amertume. Regardez ce qu'il dit dans Genèse. Là. Il dit, maintenant, ne vous affligez pas. Parce qu'il voit que Joseph est puissant, là, okay, à côté du Pharaon. Il dit, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Il dit, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Donc Joseph regarde au-delà de la méchanceté humaine que son frère a eu à son égard. Dieu a pris le rejet et le mauvais traitement de ses frères pour accomplir son plan. Salomon, dans Ecclésiaste 7,14, qu'est-ce qu'il dit? Au jour du bonheur. Il y en a qui le savent par cœur, ça. J'ai déjà entendu des gens qui me disent ça. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre rien de qui sera après lui. Jérémie, les lamentations de Jérémie, qui ne connaît pas ce livre-là, il est encore plus clair, Jérémie. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur lui ait ordonné? N'est-ce pas de la bouche du Très-Haut qui sortent les mots et les biens? C'est-tu clair, ça? Oui, plus clair que ça, et un bon Québécois, tu meurs. C'est ça? Ça va, oui, le thème. Mais c'est clair. Donc, tout vient de Dieu. Quand Jérémie demande ça, c'est vraiment une question rhétorique. La réponse est oui. C'est la bouche de Dieu, c'est-à-dire son décret souverain, encore là. Sa volonté qui découle toute chose. Donc, Job ne dit rien d'incohérent. Il ne parle pas rempli d'une impulsion, une émotion. Il réfléchit même. Même, il est triste, il est meurtri, il est souffrant. Et les paroles de Job sont en parfaite harmonie avec l'ensemble des Écritures. C'est que Dieu ordonne le bien et le mal, et rien, absolument rien, échappe à sa sainte volonté. Sachons, frères et sœurs, qu'à ce stade-là, Job ne comprend probablement pas clair là, le but de ses souffrances. Là. Okay? Même s'il sait qu'il vient de la main de Dieu, et pourtant la suite du livre lui donnera aucune explication non plus pourquoi Dieu l'a frappé. Mais soyons sûrs là, que cette épreuve, elle va l'amener à une compréhension plus claire, et celle que Dieu est infiniment juste dans toute ses actions. Dieu est juste dans toutes ses actions. Et le texte le souligne. Il dit qu'en disant cela, l'auteur, il écrit, en disant cela, Job ne pécha point de ses lèvres. Job ne pécha point de ses lèvres. Quand j'ai entendu ce passage-là de ses lèvres, donc, des fois on se demande, OK, ses lèvres, mais son cœur, là, est en train de dire, Seigneur, tu as donné, tu as enlevé, et tout vient de toi, le mal. C'est facile de dire ça, hein? Il dit de ses lèvres, mais dans son cœur, qu'est-ce qu'il pense? Des fois, on dit, oui, Seigneur, on dit automatiquement ces paroles. Hein? Seigneur a enlevé, le Seigneur a donné, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ça? Mais à l'intérieur, on est en train de dire, Seigneur, pourquoi tu es aussi méchant avec moi? Donc, des lèvres, c'est facile de dire, hein? Mais il faut le dire avec vraiment conviction, des cœurs. Et je ne crois pas que Job est en train de juste dire ça de ses lèvres. Parce que Dieu, après, il dit que les paroles de Job étaient justes. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Donc, tout comme la première épreuve, cette deuxième épreuve se termine donc pour glorifier Dieu. Nous aussi, dans nos épreuves, pouvons exprimer notre douleur. On va le voir après, là, dans le chapitre 3. Qui va prêcher le chapitre 3? Job va maudire le jour de sa naissance. C'est difficile, ce passage-là. Mais, en tout cela, on voit que Job exprime seulement ce qu'il ressent. Mais il ne pêche pas contre Dieu. Il ne blâme pas Dieu pour cela. Mais il s'exprime. Vous avez déjà lu le psaume, là? Et vous avez lu déjà comment les psalmistes s'expriment des fois. Okay? C'est leur souffrance qui est exprimée, mais ils ne pêchent pas contre Dieu. Donc on peut, exprimer notre douleur à Dieu, sans jamais aller contre lui. Okay? Et dire que c'est lui qui veut mon mal. Dieu est bon, même au milieu de la souffrance. Êtes-vous d'accord avec ça? Ah, ben Ronald, tu n'es pas dans la souffrance, donc tu peux dire facilement ça. C'est vrai, mais Dieu est bon. J'ai déjà passé, et on passe par les souffrances. Donc, on a toujours quelque chose, une requête, on est devant Dieu, et Dieu ne répond pas encore. Donc, le prologue s'achève sur un tableau profondément tragique, humiliant. Job est complètement brisé, OK? Il est assis au milieu d'une décharge publique, dans les cendres, il dit, traité comme un déchet même, il utilise un morceau de poterie là pour s'égratter, okay? Pour gratter ses blessures. Et Job est, comme on peut dire, déshumanisé, okay? Isolé, plongé dans une grande souffrance. Le chapitre se termine par l'arrivée des trois amigos, des trois amis de Job. Ils ont fait un long voyage, ils se sont mis d'accord. Ils sont venus pour pleurer avec lui, le consoler. D'ailleurs, les deux mots qu'il utilise pour le plaindre, c'est-à-dire littéralement hocher la tête avec lui, c'est-à-dire partager sa peine. Et le consoler, c'est permettre de comme reprendre son souffle, de le réconforter. Alors, je crois que ces trois amis sont vraiment, je crois qu'ils souffrent avec Job. Je crois qu'ils font bien, ils veulent le consoler, au moins au début. Après, ça commence le dialogue avec. Mais au moins du début, oui, il s'assoit avec lui sur la cendre. Mais il trouve Job méconnaissable. Leur douleur est si réelle qu'il dit qu'il éclate en sanglots. Il déchire leurs vêtements, il envoie la poussière sur leur tête en signe de deuil. Puis ils font quelque chose de magnifique. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assoient avec lui 7 jours et 7 nuits. Waouh! 7 jours et 7 nuits. On dit que peut-être c'était une tradition. Le Talmud, il dit que c'est une tradition, qu'il faut attendre 7 jours. Je ne sais pas. Et peut-être c'est une tradition. Mais une chose est sûre, là. 7 jours et 7 nuits, on voit dans l'Ancien Testament qu'on considère 7 jours et 7 nuits pour pleurer une personne qui est déjà morte. Est-ce que les amis de Job, ils le considèrent déjà comme mort? Je ne sais pas, mais je crois qu'ils ne disaient rien. Rien du tout. Et j'ai dit qu'une bonne chose, ils font les amis de Job, là, quand ils sont... Des fois, on veut encourager des frères et sœurs. Hein? Ça m'est déjà arrivé. Hein? Puis là, des fois, on veut dire une bonne parole, puis on dit toute une exhortation. Ça ne sert à rien. Donc, c'est mieux de rien dire, comme les amis de Job. C'est mieux de rien dire. Même Job, après, il va dire... Oh, il dit, un peu sarcastique, il dit, oh, quel grand consolateur que vous êtes là. Vous êtes en train de me... on va le dire encore là, cet épisode-là. Donc, il commence à critiquer Job et à trouver pourquoi il est dans cet état. Mais je crois qu'au début, c'est légitime. Il vient pour pleurer même à côté de Job. Et c'est vrai, les amis, des fois, ils peuvent nous décevoir. Et ces mêmes amis, bientôt, ils vont le juger, sans le comprendre. Donc, il faut attendre vers la fin de ces livres pour voir que Job réalise une profonde vérité. Seul Dieu connaît vraiment le fond de notre cœur. Malgré son silence et l'incompréhension même des proches, même incluant sa femme, Job s'accroche d'une foi inébranlable. Il comprend que même si le Seigneur le met à l'épreuve, il reste son seul refuge. Et c'est avec force qu'après il peut déclarer, même s'il me tue, j'espère en lui. C'est ce qu'il dit plus tard. Même s'il me tue, j'espère en lui. Il dit, car il sait au plus profond de son âme, son Rédempteur est vivant. Il le dit aussi plus tard. Donc, frères et sœurs, en contemplant Job assis sous la cendre, méconnaissable, abandonné de tous, nous pourrions nous demander quelle consolation reste-t-il pour un homme qui souffre tellement? Et la réponse ne se trouve pas dans une explication humaine, la réponse se trouve dans une personne. À travers ses plaies, son rejet, son silence, Job n'est pas seulement un exemple de patience. Le Nouveau Testament l'atteste qu'il est patient. Il est un serviteur de Dieu qui plongeait dans la souffrance, en quelque sorte pour annoncer la venue du vrai juste. Par ses souffrances imméritées, Job devient un peu comme le portrait de Jésus, le seul véritable juste. Si vous lisez Ésaïe 53, vous allez voir que même il parle de Jésus comme quelqu'un qui est méconnaissable à cause de sa souffrance. De même que Job a été frappé dans sa chair, selon le décret, souverain de Dieu, Jésus a été frappé par Dieu, Ésaïe 53, et humilié pour nos péchés. Là où Job s'est gratté avec un morceau de poterie, là, Jésus a apporté nos infirmités sur la croix. Et Hébreux, j'aime parce qu'il dit « hors de la ville, hors de la porte, Jésus, un peu comme Job, en dehors, a porté nos souffrances. » Donc cette foi inébranlable de Job permet de dire « recevrons-nous de Dieu le bien et ne nous recevrons-nous pas aussi le mal ?» Donc c'est là que préfigure l'obéissance parfaite du Fils de l'homme, du Fils de Dieu. En Gethsémané, vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit? Si c'est possible de toi, que passe cette coupe, mais que ta volonté soit faite avant. Donc Job s'accroche à son Rédempteur sans encore le voir. Nous nous regardons à celui qui est déjà venu, qui a vaincu la mort. En quelque sorte, on est en avantage avec Job. Nous avons qui? Nous avons Jésus. Nous avons tout ça, la parole de Dieu qui nous console dans nos souffrances. Quelle est donc notre consolation? Elle est le fait de savoir que lorsque nous souffrons, nous ne sommes pas punis. Nous ne sommes pas, comme dit Romain, là, nous ne tombons pas sur le jugement. Car la dette de nos fautes a été payée il y a 2000 ans au calvaire. Notre consolation, c'est Jésus ne se contente pas juste de nous observer de loin, il est tout près de nous. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous ne sommes jamais seuls dans nos épreuves, frères et sœurs. Comme Job, nous pouvons traverser la nuit, l'insomnie, la douleur, avec cette certitude, nos larmes ne sont pas vaines, okay, nos souffrances, et notre douleur n'est pas hors du contrôle de Dieu. Le Seigneur qui a ordonné l'épreuve, lui-même, il va assurer notre victoire. On l'a lu la semaine passée dans Corinthiens. Alors, frères et sœurs, que notre cœur s'affermisse, okay? Même si le cœur s'épuise, et même que nos amis nous abandonnent des fois, et où nous déçoivent, levons les yeux vers la croix. Comme dit l'Épître aux Hébreux, courant avec persévérance, l'Épître aux Hébreux dit, l'épreuve qui nous est proposée, dit Hébreux, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi, qui l'amène à la perfection. Donc déclarons comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant, il est notre refuge. Notre paix, il est notre espérance éternelle. Vous savez? Et je vais conclure avec ce passage-là. Job ne savait pas le plan de Dieu. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette scène-là au ciel? Là? Il y a Satan qui est venu parler mal de Job, vouloir tenter Job. Là, il dit, bon, mais tu vas voir, des épreuves, là, il va te maudire. Dieu ne l'a pas dit. Mais savez-vous, il y a quelque chose qui arrive avec quelqu'un dans le Nouveau Testament. Jésus lui dit à Pierre, qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Le diable, il a demandé pour toi. Mais il dit, je vais prier pour toi, pour que tu puisses après affermir tes frères. C'est magnifique. Hein? Pierre a su que le diable allait le secouer, ok, pour un peu sortir le mauvais et le seul est bon, pour affermir après ses frères. Et c'est justement ce qu'il va faire dans ce qu'il a écrit dans 1 Pierre 3, 7, et je finis avec ce passage. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ, d'entre les morts, pour une espérance vivante, dit, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétir, et qui vous est réservé dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous entressaillez d'allégresse, quoique vous soyez maintenant pour un peu de temps, puisqu'il le faut, affligés par diverses épreuves, afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvé par le feu, se trouve à être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lorsque la révélation de Christ, de Jésus-Christ. Amen.